Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Quand j'avais 13 ans, j'écoutais le Move. Et à l'époque, tu passais presque pour une rebelle quand au collège tu préférais les filles du Move à Difool. Pourtant, déjà en 2003, les aînés nous parlaient d'un temps où le Move était beaucoup moins commercial, beaucoup plus précurseur, beaucoup plus transpirant de riffs électriques. Ils nous disaient que le Move, ça allait devenir ni plus ni moins qu'une radio comme les radios commerciales, la pub en moins, service public oblige. Mais les aînés nostalgiques, c'est toujours fatigant, alors on les écoute pas. Et aujourd'hui, hop, lifting. Le Move devient Move tout court. Certes, il est trop tôt pour dézinguer une radio qu'on a aimée. Move n'a qu'une journée d'existence et il faut lui laisser la chance de faire ses preuves. Mais quand on lit que Mathieu Gallet, grand Manitou de Radio France, veut faire du Move, une radio qui va parler le langage des jeunes et employer leur code, on frémit. Quand on voit que la grille est simplifiée à 3 programmes rédactionnels par jour, on a des spasmes. Quand l'habillage de la radio annonce Move, hip-hop, électro, on chiale. Et quand on écoute 10 minutes de programmation musicale avec les Destiny's Child et Indila dans les tympans, on a carrément les oreilles qui saignent. Oui, il est trop tôt pour flinguer Move, mais en tant qu'ancienne auditrice, laissez-moi vous dire qu'il y a 12 ans, le Move était beaucoup moins commercial, beaucoup plus précurseur, beaucoup plus transpirant de riffs électriques.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous retrouverez le billet lance-torpille de Yann. Et il n'est toujours pas content. Il causera dans le micro juste avant l'interview de Chloé Ballet, vice-présidente culture à la Fédé UCO et organisatrice du tremplin Catocalypse. À la fin de l'émission, vous entendrez la chronique sportive de Julien. Mais d'abord, puisque c'est une émission thématique quasiment, nous allons fêter un joyeux anniversaire à l'Université catholique de l'Ouest qui souffle cette année ses 140 bougies. Quelle histoire ! Quel projet ? On en parle tout de suite. C'est ça, Van Gogh ? Quelle déception ! Extrait d'un reportage de 89. Bon, là, vous vous dites, c'est quoi le point commun entre la Cato et Jeanne Calment ? Eh bien, la doyenne de l'humanité, décédée en 97 à l'âge de 122 ans, est elle aussi née en 1875. En 1875, en France, on est sous la Troisième République, l'Opéra de Paris est inauguré. Aux États-Unis, le Congrès vote la loi des droits civiques, qui garantit l'égalité des droits aux personnes de couleur. Bell émet pour la première fois un son avec un câble électrique, il vient de créer l'iPhone, et Angers, donc, l'UCO voit le jour. Bonjour Dominique Vermech.
Bonjour.
Vous êtes recteur de l'UCO.
Oui.
Vous préférez qu'on dise l'UCO ou la Cato ?
Oh, comme vous voulez, allez, on prend la Cato, l'UCO.
On prend la Cato, on
allez,
est parti comme
on
ça.
On est parti.
Alors la Cato, c'est une des plus anciennes universités du Grand Ouest. À l'époque, en 1875, c'est la loi Vallon qui met fin au monopole d'État dans l'enseignement supérieur et là naissent des universités libres, Paris, Lyon, Lille et Angers. À la Cato, à Angers. Et à l'époque, je crois que c'est la première université de droit libre en France.
Voilà, et puis il faudrait peut-être inverser la, comment dirais-je, l'énumération, puisque c'est Angers la première, hein, sous les auspices de l'évêque de l'époque, Monseigneur Frépel, qui était député de Brest, et qui précisément s'est entré dans la fissure, donc cette loi 1875 qui permet effectivement de recouvrer la liberté d'enseignement supérieur. Et Angers est entrée la première, en fait. Et comme première faculté, donc c'est une faculté de droit, hein, donc qui a ouvert ses portes le 1er octobre 1875.
Et à l'époque, dans le paysage angevin, est-ce qu'il y avait déjà une autre université ?
Dans le paysage angevin, il n'y avait pas d'autre université, hein, notamment. Il faut voir donc les années 1970 pour voir l'émergence de l'université publique, l'université d'Angers. Et donc l'université de la Cato, qui redémarre en pourrait dire redémarrée en 1875, puisqu'elle faisait suite à l'université médiévale, hein, donc qui était autour de, je pense, dans le, oui, ça arrive au milieu du XIVe siècle, je crois que c'est 1375 également, en fait, voilà. Université médiévale, Angers, donc avait une grande tradition, depuis assez longtemps, une universitaire.
C'est qui les personnes qui peuvent aller à l'université en 1875 ?
Alors, les personnes qui pouvaient aller à l'université en 1875, c'est des personnes qui étaient originaires du Grand Ouest, puisque vous savez que cette université d'Angers était avec comme territoire toujours le Grand Ouest, hein, raison pour laquelle aujourd'hui, bah, c'est l'UCO, la Cato, Université catholique de l'Ouest, non seulement Université catholique d'Angers. Donc, c'était des personnes de... je dirais, qui s'intéressait surtout donc, au droit, qui allait vers des carrières notamment donc, juridiques, administratives notamment. C'était également des séminaristes qui allaient devenir prêtres, donc avec la faculté de théologie, hein. Et puis également des personnes qui allaient devenir progressivement professeurs dans les établissements primaires et secondaires, donc les facultés de sciences, hein, faculté de droit, faculté de théologie, faculté de sciences, et puis également faculté de lettres. Et donc c'est progressivement cristallisé le métier premier de la Cato d'Angers, qui était notamment de former les professeurs de l'enseignement catholique pour tout le Grand Ouest.
Dominique Vermerch, vous êtes recteur de la Cato depuis le 1er septembre 2012. Comment on devient recteur ? Il y a un casting ? Comment ça se passe ?
Ah ouais, il y a un casting impressionnant, non ? Donc en fait, comment ça se passe ? Donc moi, je suis au départ, je viens, pourrait-on dire, de l'université publique, l'enseignement. Voilà, l'Institution publique de recherche, parce que j'étais auparavant à l'INRA, recherche agronomique, puis professeur à AgroCampus Ouest. Et donc un jour, on est sollicité pour poser sa candidature. Donc on est sollicité par, en gros, pour faire bref, le Conseil supérieur des évêques qui assure la tutelle, je dirais, ecclésiale de la Cato. Donc il y a un assez long parcours qui dure entre le moment où on m'a sollicité en novembre 2010 et le moment où j'ai pris mes fonctions le 1er septembre 2012, vous voyez, il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc avec un cursus, des rencontres, des auditions par le conseil d'université également, etc. Et puis une nomination qui s'est faite le 1er février 2012, il y a maintenant presque 3 ans, la nomination, et puis la prise de fonction le 1er septembre. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté ? C'est quoi pour vous la plus-value de la Cato ?
Alors il y a 2 questions que vous posez là. Hein. Donc pourquoi j'ai accepté ? Bon, parce que je me suis rendu disponible, c'est-à-dire que quelque part... le projet de l'université catholique m'intéressait, mais c'était un peu pour moi encore que de la théorie, puisque j'ai débarqué un peu, donc je le connaissais un peu. Je le connaissais un peu par le fait que j'avais été sollicité pour instruire donc l'accord qui avait été signé en 2008 entre la France, la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des diplômes des universités catholiques, la possibilité que des universités puissent délivrer des diplômes donc reconnus par la République française, des diplômes canoniques et des diplômes profanes. Donc ça voilà, c'est ça qui me voilà, je suis un peu entré dans ce monde-là de l'université catholique, et c'est un projet qui m'intéressait parce que quelque part j'entrais véritablement dans une université. Je crois que l'université catholique, mais pas que, a ce souci de faire notamment dialoguer les savoirs, c'est-à-dire que vous entrez véritablement dans une université, ce qui est un peu rare en France notamment, qu'on développe surtout une culture facultaire. On entre à la fac de droit, on entre à la fac de sciences, ici on entre à la Cato. Voilà. Et c'est ce qui m'avait marqué un petit peu, je dirais, en arrivant à la Cato. Donc ma disponibilité pour participer à cette aventure, quoi.
Alors aujourd'hui, la Cato, c'est 9000 étudiants, c'est bien ça ?
Voilà, 9000 étudiants, si on ne compte pas les écoles associées, puisque la Cato, hein, dès 1875, il faut compter vers la fin du XIXe siècle, a porté, pourrait-on dire, sur les fonts baptismaux, donc des écoles, hein, que l'on connaît bien, donc les écoles supérieures d'agriculture, l'ESCA, les EO, dans les années 50. Et donc, si on tient compte que du cœur facultaire, la Cato, c'est 9000 étudiants sur 5 campus. Le campus mère, l'alma mater, Angers. Et puis vous savez que dans cette génétique, pourrait-on dire, de la Cato, 4 autres campus se sont développés. Donc 2 en Bretagne-Nord, à Laval, et puis un peu plus exotique puisqu'il est à Tahiti.
Comment elle fonctionne, cette machine ? En tout cas, pour parler de l'université mère à Angers, c'est une association, l'association Saint-Yves, qui porte la Cato.
Tout à fait. Donc pour Angers, donc c'est une association de gestion, hein, qui s'appelle l'association Saint-Yves, qui était donc reconnue d'utilité publique, donc qui porte l'ensemble de la gestion administrative, économique et financière de la Cato. Le recteur en ayant l'autorité, pourrait-on dire, académique, hein, donc et qui s'entoure d'un secrétaire général, différentes fonctions de services d'appui pour assurer cela. De même, sur les autres campus, sont portés par des associations de gestion différentes. Et donc, finalement, pour la gouvernance, ben, ça suppose qu'il y ait différents conseils. Hein, donc, un conseil d'administration de Saint-Yves, un conseil après un conseil rectoral, donc qui regroupe les différents doyens des facultés et les directeurs de campus, des différents campus. Un conseil académique, là on est plus dans la chose académique, donc qui regroupe autour du recteur donc, les différents doyens des facultés, puisque vous savez que depuis le 1er septembre 2012, nous sommes entrés dans une réforme facultaire. Nous nous sommes réappropriés le mot faculté au sein de l'université. Et puis après, un conseil des campus, hein, voilà. Donc on passe pas mal de temps au conseil, on essaie de passer le moins de temps possible, mais enfin, il faut quand même assurer la gouvernance de l'ensemble, ce qui est effectivement une gouvernance un petit peu enchevêtrée, pourrait-on dire.
Alors, la CATO, c'est un établissement qui propose des formations payantes pour une licence en infocom, en LEA ou en SVT. Il faut compter, selon les revenus des parents, entre 3200 euros et 5500 euros. J'ai les bons chiffres.
Oui, ça doit être à peu près ça, hein, selon effectivement les revenus familiaux.
Comment est-ce qu'on justifie ces frais d'inscription ?
Comment on les justifie ? Bah, ils sont très simples à justifier, c'est facile. Si vous voulez, en France actuellement, pour un étudiant qui est inscrit en licence, hein, prenons une licence, j'aurais tout confondu en moyenne, la puissance publique verse à peu près 8 à 9 000 euros. C'est-à-dire que le coût pour la puissance publique d'un étudiant en licence, vous voyez, en moyenne, c'est à peu près 8 à 9 000 euros. Ça veut dire que la CATO, si elle veut, effectivement, c'est ce chiffre-là, elle veut voilà, produire une licence, ça lui coûte 8 à 9 000 euros. Donc elle n'en reçoit, elle, à peu près, pour la CATO d'Angers, de la puissance publique, nous sommes en contractualisation avec le ministère de l'enseignement supérieur, nous recevons un peu moins de 900 euros. Donc voilà la différence. Donc la différence, ce sont des scolarités, nous essayons vraiment de les réguler au maximum pour que la CATO conserve, et ça c'est une marque de fabrique de la CATO, sa fibre sociale, hein, donc ça veut dire, ça se traduit concrètement par le fait que nous avons à peu près un peu moins de 40% de boursiers, donc il y a un choix vraiment raisonné des étudiants ou de leurs parents pour la CATO. Ça suppose aussi qu'on rationalise au mieux nos ressources budgétaires, de telle manière à ce qu'on ait un coût de production qui soit un peu inférieur à ce chiffre que je vous estimais de 8 à 9 000 euros. Et puis ça suppose aujourd'hui, notamment à travers la diminution de la baisse de subvention depuis 2 ans, environ 20%, que nous diversifions nos ressources. Et c'est ce que j'ai essayé d'entreprendre depuis 2 ans, donc au travers d'une culture de mécénat, pour soutenir la CATO.
Dominique Vermersch, la CATO, c'est écrit dans le nom, c'est un établissement catholique. Je fais une lapalissade là. Quelle part est concrètement dédiée à la religion dans l'établissement, dans les enseignements ? Est-ce qu'on peut venir à la CATO si on n'est pas catholique, tout simplement ?
Ah, bien sûr, vous le savez bien. C'est-à-dire qu'on accueille, et c'est dans la vocation de toute université catholique, d'accueillir le tout venant. On ne demande pas son certificat de baptême à l'entrée, hein, bien non. Un catholique, alors, la part de la religion... si vous la choisissez, si vous souhaitez, je ne sais pas moi, vous intéresser aux religions, alors à la religion catholique évidemment, mais à d'autres religions, vous inscrivez à la faculté de théologie, vous pouvez suivre un cours. Effectivement, la CATO, quelles que soient par exemple les licences que vous suivez, vous avez la possibilité effectivement, au choix, de suivre des cours qu'on appelle les ateliers transversaux, où quelque part vous pouvez avoir une approche de la religion, du dialogue entre foi et raison, etc. Mais tout ça, c'est sous forme de proposition. Autrement dit, il faut bien se rappeler ce que veut dire catholique. Catholique, ça veut dire universel, c'est-à-dire on embrasse large. Et on pourrait dire que université catholique, c'est une sorte de pléonasme, d'une redondance. C'est-à-dire que, voilà, l'université catholique, c'est d'abord une université. Et évidemment, il y a des propositions diverses et variées, jusqu'à des propositions qu'on pourra qualifier de pastorales, pour vraiment les catholiques, les chrétiens qui souhaitent se retrouver, participer à l'aumônerie, etc. Donc tout cela est sous forme, évidemment, de propositions.
Dominique Vermersch, j'aimerais qu'on revienne sur un épisode qui a été un petit peu médiatisé l'année dernière, en février, à la même époque. Il s'agit de la conférence donnée par Tugdual Derville, porte-parole de la Manif pour tous, sur le thème de l'écologie humaine. Conférence pendant laquelle deux étudiants à la CATO avaient été évacués pour le moins vivement, puisque l'un d'entre eux a obtenu un jour d'arrêt de travail à la suite de l'incident. À l'époque, vous aviez déclaré à Ouest France « Je ne peux que regretter ces débordements. Il y a eu une bévue dans la remontée des questions, fort nombreuses par ailleurs. Je peux comprendre l'énervement de ces étudiants. Avec le recul, Dominique Vermersch, quel regard vous portez sur cet épisode ?
Avec le recul, parce qu'effectivement, ça fait près d'un an, donc c'est pour moi cet événement garde, un souvenir qui est douloureux, hein, donc un souvenir aussi un peu d'un échec, et puis le fait que effectivement, on l'a revu, on a pu partager avec les différentes assemblées de l'université, puisque j'ai souhaité, dès le 10 mars suivant, organiser une assemblée générale pour repréciser, parce qu'effectivement, dans le timing, la chronologie des événements, bon, il y avait pas mal de choses qui ont été dites. Donc on a pu redire ça paisiblement. Ce que j'en garde comme souvenir, enfin, en tout cas comme souvenir, et à la même fois comme enseignement, ne serait-ce que pour moi, tout d'abord, et je crois que ça sera très important pour, notamment pour que dans cette entrée dans le 50e anniversaire, c'est que d'abord l'université, c'est d'abord le lieu du dialogue, ça devrait être le lieu du dialogue. Et plus, encore plus profondément, pourrait-on dire, c'est que la tâche universitaire, en fait, c'est cette manière de l'apprentissage du dialogue, du dialogue. Alors dialogue, hein, dialogos, ça veut dire quoi? Ça veut dire logos, c'est la raison, c'est le verbe, c'est la parole. Dialogos, ça veut dire que j'accepte que ma parole eh bien, puisse dépendre hein, de l'écoute de la parole d'un autre. Voilà. Et donc, en fait, l'essence académique, hein, à l'origine de la tâche universitaire, il y a le dialogue, on entre en dialogue. Et effectivement, donc, sur des sujets qui devaient être évoqués peut-être un peu plus profondément, la question de l'écologie humaine, je ne désespère pas, effectivement, qu'on puisse éventuellement reprendre ça, ces questions de l'écologie humaine.
Ça veut dire quoi, l'écologie humaine?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'écologie humaine? Vous savez que le concept d'écologie est un concept qui date à peu près du milieu du 19e siècle, qui a été notamment fondé par Haeckel, hein, donc qui a développé après le concept d'écologie, oikos logos, n'est-ce pas? Hein, c'est l'idée que dans l'oikos, c'est-à-dire, pourrait-on dire, la portion de terre habitée, les écosystèmes, la nature, il y a un logos. J'essaie de déchiffrer un logos, c'est-à-dire qu'un écologiste, au sens scientifique du terme, il va essayer de découvrir finalement des lois d'organisation, pardon, de la nature. On dit voilà, bon. Écologie humaine, bah, c'est de dire tout simplement, et d'ailleurs Haeckel a défini le concept d'écologie, et très vite après le concept d'écologie humaine, qui aujourd'hui est un concept qui est extrêmement connoté, vous voyez, comme plein de concepts. Écologie humaine, c'est se dire que bah, dans l'oïkos, il y a une espèce animale particulière qui s'appelle l'homme. Tout simplement, c'est ça, l'écologie humaine. Donc voilà, pas plus. Quand j'étais à l'agro, notamment Agro Campus Ouest, effectivement, nous travaillons sur les questions de l'agronome d'écologie, évidemment, d'écologie humaine. Pourquoi? Parce que notamment, nous arrivons à ce qu'on appelle une sorte d'ère anthropique, l'anthropocène, où l'activité de l'homme, je dirais aujourd'hui, a un impact extrêmement important sur le devenir même de la nature. Voyez.
Mais avec, pour cette conférence, un personnage très marqué idéologiquement. Est-ce que vous reprogrammeriez Tuc de Walderville dans l'enceinte de la Cato?
Stop, moi je ne l'ai pas programmé.
Alors pourquoi est-ce qu'il a été...
Tout simplement parce que l'université catholique, donc elle est, comment dirais-je, elle loue ses amphis, notamment. Donc c'est une proposition qui avait été, proposée par le diocèse. Et comme traditionnellement, eh bien, donc cherchant un lieu assez important, proposer de louer l'amphi. Ça, c'est, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Cela étant, j'espère bien qu'on puisse éventuellement, alors avec tel ou deux, arriver au dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Non pas au dialogue de sourds, c'est-à-dire entre des personnes, différents positionnements, etc. Vous voyez, ça me paraît vraiment très important. Et je crois que dans la Cato, il y a une grande tradition, en fait, hein, me semble-t-il, en tout cas, de dialogue, et qu'il faut vraiment continuer à développer, à fortifier. Ça me paraît vraiment très, très important. Voilà. Mais ce n'était pas une programmation de la Cato.
Un accueil.
Oui, ben, un accueil, comme on accueille différents colloques, différentes... Voilà, et c'est... On n'avait pas la possibilité... Enfin, voilà, c'est passé comme ça, enfin, je veux dire... parce que nous sommes sous la tutelle ecclésiale, donc voilà, c'était pas...
On va continuer cette discussion, oui. Dominique Vermeer, juste après cette petite musique signée Ex-Guru, ça s'appelle Watch Out.
Watch out, 'cause you've been so confident.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on reçoit Dominique Vermersch, recteur de la Cato. La Cato qui fête cette année ses 140 ans. Et puisque même à 140 ans, on n'arrête pas d'évoluer, on va se projeter dans 7 mois à la rentrée 2015. Puisqu'à la rentrée prochaine, vous proposez aux étudiants de la Faculté des Humanités, donc qui regroupe art, histoire, lettres et langues, d'organiser leur licence en majeur et mineur. Donc pour faire clair, un étudiant pourra opter pour 65% d'enseignement en histoire de l'art, par exemple, et 35% en information et communication. Pourquoi ce choix de mixer les orientations? Ça répondait à un besoin?
Effectivement, je crois que ça répondait à un besoin, d'une part, pour l'étudiant, quand il arrive à l'université, précisément, il se dit, j'arrive dans une université. Et donc, pour moi, une université, c'est quoi? C'est la possibilité d'embrasser des différents savoirs, des savoirs qui dialoguent entre eux, on parlait du dialogue, et puis des savoirs qui permettent progressivement d'acquérir des compétences. Mais quand j'entre à l'université, là j'ai 18 ans, 19 ans, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je vais être prof d'histoire? Est-ce que je vais me lancer dans le journalisme? Est-ce que je vais plutôt histoire de l'art? Donc l'idée, c'est qu'on puisse proposer un portail suffisamment large et pour être réversible, de telle manière à ce que, quelque part, l'étudiant soit acteur, voire même, on a parlé même d'auteur de sa formation, du moins acteur de sa formation. Et donc cette idée de majeur-mineur, et qui peuvent être réversibles, alors vous avez effectivement vu ça au travers de la Faculté des Humanités, c'est un système qui n'est pas complètement original, puisqu'on retrouve dans les autres pays, notamment anglo-saxons, et qui permet donc à l'étudiant une spécialisation progressive, et puis un choix qui est, je dirais, on l'espère pour lui, mûrement raisonné, d'autant plus que c'est aussi une spécificité de la Cato, c'est qu'il puisse être accompagné par ses professeurs dans ce choix. Voilà. Et donc c'est une nouveauté effectivement pour la Faculté des Humanités, et qui honore bien le mot faculté dans toute l'acception du mot faculté, se donner des facultés. Voilà.
L'autre nouveauté de la rentrée prochaine, c'est l'ouverture d'une licence de droit sur le campus d'Angers. Retour aux sources, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a 140
Exactement.
Ans, c'était déjà le...
Bah oui, quand même, on n'allait quand même pas faire en sorte que la Cato d'Angers, donc une des 5 Cato en France, n'ait pas ça son droit, puisque c'était un peu une exception. Donc effectivement, donc l'ouverture, la réouverture donc d'une première année, donc d'une licence de droit, et donc qui permettra aussi, je pense, à une sorte de... contribuer à la cohérence de notre offre globale de formation. Puisque vous devinez bien aussi que, en infocom, matières quand même comme la biologie, comme les matières qui sont enseignées, la psychologie, le droit peut intervenir assez rapidement. Déjà, un certain nombre d'enseignants en droit interviennent à la Cato, et donc là, on aura ce socle de beaucoup plus important, donc qui va être délivré dès la rentrée prochaine donc à la Cato. Et effectivement, donc à l'occasion du 140e.
Alors, l'actualité qui arrive très prochainement, c'est les 11 et 12 février, l'opération Tester l'université qui est ouverte aux lycéens, qui permet donc de faire ses premiers pas à la Cato. Il y a encore possibilité de s'inscrire?
Oh, bien sûr qu'il y a certainement encore possibilité de s'inscrire. Je pense qu'il y a une première opération qui avait été faite en novembre, je pense, donc c'est une deuxième opération, et donc qui permet donc à des lycéens de suivre en live, je dirais, notamment donc un cours à l'université. Donc une palette de différents cours sont proposés, et c'est toujours une expérience très intéressante, évidemment à la fois pour les lycéens, on l'espère les futurs étudiants, mais aussi pour les enseignants et les professeurs. Je crois que là, il y a quelque chose qui se joue et qui témoigne aussi du fait que la Cato se vit d'abord comme une communauté, une communauté d'enseignants, d'étudiants. Nous sommes à Radio Campus, vous voyez, donc vous êtes dans l'enceinte de la Cato aussi. L'université qui se vit comme une communauté de vie, voilà, au service de l'étudiant et notamment des futurs étudiants. Donc tester l'université, évidemment, c'est porte ouverte aussi.
Les portes ouvertes, donc le 28 février.
Les deuxièmes portes ouvertes, donc le 28 février prochain, effectivement.
Est-ce qu'on peut noter quelques dates en ce qui concerne les festivités de ce 140e anniversaire?
Alors, nous avons une très belle date, donc la semaine dernière, le 28 janvier dernier, donc puisque c'est la fête Saint-Thomas d'Aquin, pour ceux qui connaissent, voilà, Saint-Thomas d'Aquin, donc docteur de l'Église, donc qui est notre patron, pourrait-on dire, des patrons de l'université. Donc nous avons une très belle soirée inaugurale, voilà, et nous avons eu l'honneur d'avoir le recteur de l'université, la Grégorienne, qui nous a fait un enseignement très intéressant sur la vocation, l'identité de l'université catholique. Et donc j'ai la joie de vous dire ce soir que le texte sera disponible sur le portail web, et la conférence sera aussi disponible, ce sera une vidéoconférence qui sera disponible sur le site web de la Cato très, très, très prochainement, d'ici quelques jours. Je citerai deux autres événements importants, outre les expositions durant toute l'année dans la bibliothèque, sur le Monseigneur Frépel, etc. le 1er octobre, ce sera la rentrée solennelle, il coïncidera avec le 140e anniversaire proprement dit, donc 1er octobre 1875, donc, qui correspondra donc à la refondation de la fondation de la faculté de droit, et donc l'ouverture du droit, donc une rentrée solennelle, qui aura plutôt une coloration, pourrait-on dire, un peu plus juridique. Et puis, fin octobre, la communauté de l'UCO, notamment le personnel enseignant, personnel administratif et technique, donc, a la possibilité de partir à Rome pendant 4 jours. Donc, nous partirons à Rome. Voilà, donc une sorte de voyage un petit peu culturel, puis même un aspect de pèlerinage. Et puis, le 8 décembre, c'est notre fête patronale de la Cato. Donc, Laura aura aussi une clôture officielle et on essaiera d'inviter, parce que vous savez que Monsieur Frepel, peut-être que vous le savez ou vous ne savez pas, est un Alsacien. Et l'Alsace garde un fidèle souvenir de ce qu'a donné un fils alsacien, je dirais, un de ses fils, pourrait-on dire, à la Cato. Et donc, là aussi, on espère pouvoir inviter des descendants de la famille de Monseigneur Frepel à la Cato pour aussi les honorer de ce qu'ils ont pu apporter à cette université dans ces moments de fondation. Donc le 8 décembre prochain, grand événement également.
Merci beaucoup Dominique Vermeersch d'avoir été avec nous ce soir et joyeux anniversaire.
Voilà, joyeux anniversaire à tout le monde.
C'était l'Agonia avec Baïa.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est lundi, il est 19h32, c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Ce soir, je ne parlerai pas de la victoire en Coupe du Monde de nos handballeurs français. Je n'en parle pas, mais ça fait quand même vraiment plaisir de voir une vraie équipe soudée, fair-play et modeste, du vrai sport au fond. Et puis je n'en parle pas car ce soir c'est Julien de l'émission Ta gueule Coubertin qui en parlera, et bien mieux que moi qui suis aussi sportif qu'un oursin de mer en fin de vie. Mais j'ai du mal à le dire. Ce soir je ne parlerai pas non plus de la finale du Super Bowl. J'ai regardé la première mi-temps, j'ai rien compris aux règles. Voilà, c'est tout.
Bon, si le sport c'est pas ton truc, la politique ça l'est peut-être plus, non ?
En effet, il y a de quoi faire. Ce soir, je ne parlerai pas du face-à-face PSFN des législatives dans le Doubs, ou plutôt je ne parlerai pas des ninis. Vous savez, ceux qui n'appellent pas à voter ni pour les socialistes, ni pour les frontistes. Vous savez, ceux qui méprisent le front républicain, ces rois de la rancune et de la revanche, ne voulant pas éclairer leurs électeurs, c'est dire s'ils portent haut l'honneur de leur pays en prouvant encore une fois que leurs intérêts propres passent bien avant ceux de l'intérêt général. Ce soir, je ne parlerai pas de Julien Sanchez. Ce nom ne vous dit sûrement pas. Rien, et c'est assez normal, Julien Sanchez, maire FN de Beaucaire, petite ville du Gard de 15 000 habitants, veut dénoncer au service de protection de l'enfance et à la CAF les parents qui n'arrivent pas à payer la cantine de leur gosse. La dénonciation à l'extrême droite, c'est une vieille habitude. Pourtant, une solution très simple pourrait exister en France, en prenant exemple sur la Finlande, la gratuité de la cantine. Mais Julien Sanchez ne s'arrête pas à cette ignominie. Puisque Juju n'a pas non plus hésité à couper les subventions du centre socioculturel de la ville qui participait au soutien scolaire d'une centaine d'enfants pour la simple et mauvaise raison que les gestionnaires du centre s'opposent à ses idées. Comment voulez-vous que j'évite de m'acharner sur ce parti et ses dirigeants ?
En tapant sur les autres, peut-être ?
Taper sur les autres. Ok. Ce soir, je ne parlerai pas du procès de l'ex-directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, s'ouvrant aujourd'hui. Tiens, DSK 3 lettres, me rappelant également celle d'un autre homme politique américain, aux frasques et conquêtes sexuelles assez similaires, un certain JFK. DSK, JFK, qui sera le prochain ou la prochaine ? NKM ? Transition toute faite, ce soir parlons de NKM. Ce matin sur BFM TV, la vice-présidente de l'UMP a déclaré au sujet de la place de l'éducation dans la lutte contre le djihadisme, sa proposition « placer les enfants en dehors de leur famille ». Selon elle, je cite « Il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard parce qu'ils sont à la prière, ils sont emmenés à la prière par leurs parents, et quand leurs parents sont convoqués, les parents expliquent qu'il y a des autorités religieuses supérieures à tout et supérieures à celles de la République. Donc je dis qu'il faut poser la question du placement de l'enfant. » Mais ferme-la, Nathalie, tu veux séparer des enfants de leurs parents à cause de leur religion, mais Nat, renseigne-toi un peu, dans l'islam, les heures de prière changent avec la durée des jours, et en France, la prière du matin est toujours avant 7h, 7h15, et ceci sur une période très courte, souvent à la maison, donc cela laisse assez de temps pour se rendre à l'école qui commence à 8h, 8h30. Donc ce n'est pas la prière le problème, ce sont juste les parents, toutes religions confondues, qui vont trouver des excuses religieuses au retard de leurs enfants. Le diable qui sommeillait chez certains politiques de droite se réveillent et dévoilent sa vraie nature. Le pain au chocolat revient sous la version prière du matin. De dérive en dérive, des Copé et NKM, sans parler des Vauquier, Morano, Guénaud et bien d'autres encore, on semble se trouver en face d'une opération de banalisation de la pensée sectaire, raciste et xénophobe qui pourrait amener certains à envisager, osons le dire, le pire choix électoral pour 2017. Le maître a lancé la corde, les larbins la déroulent. C'est tout pour moi pour ce soir, sur ce bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Yann.
19h, 20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
Bonsoir Chloé Ballet.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente culture à la Fédé UCO et organisatrice du tremplin Catocalypse, qui a lieu jeudi de 20h30 à 2h du matin au Carré des Arts à Pelloy-les-Vignes. Un tremplin, 5 DJ en juin à départager. Le gagnant fera la première partie de la Catocalypse, dont on parlera tout à l'heure. Si. C'est la deuxième édition du tremplin Catocalypse. Comment est née l'idée l'année dernière et quel a été le succès de ce tremplin ?
Alors l'année dernière, l'idée est née de l'ancienne VP Culture, qui était Charlène. Et notre but à la Cato, c'est de développer la culture, parce qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez. Et on a du coup eu l'idée de ce tremplin, qui permettait donc de promouvoir des jeunes DJ étudiants d'Angers, ce qui permettait de mettre en avant nos talents. Et on s'est dit, pourquoi pas relier cet événement à la Catocalypse, ce qui permet de lui donner plus d'ampleur. Et l'idée est née, et la première édition a très bien marché.
avec un vainqueur, Thomas Guillouet, qui avait remporté ce tremplin l'année dernière. Il devient quoi ?
Et bien justement, vous pourrez retrouver Thomas Guillouet jeudi, qui va ouvrir la deuxième édition du tremplin. Il se débrouille très bien, je pense que ça l'a un peu aidé à se lancer sur Angers, parce qu'on le retrouve souvent dans des bars comme le Jacaré ou le Bazar pour mixer.
Alors donc jeudi, il y a 5 DJ en lice, Baptiste Ascoët, Alexandre Tataris, Tanguy Oyette, Alexis Demet et Maxime Pignet, pardon si j'ai mal prononcé. Comment vous les avez sélectionnés ?
Alors on a une commission jury qui est composée de deux personnes qui étaient dans le jury l'année dernière et qui recommencent cette année, et de deux L1 en ICA qui du coup ont été très motivés par l'idée et qui vont rejoindre l'équipe, et aussi de Thomas Guillouet. Du coup on a 5 personnes qui ont sélectionné les DJs sur des sets qu'ils ont envoyés au préalable. On a eu une petite quinzaine de candidatures pour en retenir 5 au final.
Et comment est-ce qu'ils vont être départagés jeudi ?
Alors jeudi, ils vont tous mixer 45 minutes. Et après, le jury va en sélectionner deux, les deux préférés, qui vont rejouer. Ce qui permettra aux festifs d'applaudir le plus fort possible pour départager les deux.
Et donc le grand gagnant jouera à la Catocalypse. Jusqu'en 2003, la Catocalypse était un des plus grands rassemblements festifs étudiants de la région. La soirée avait rassemblé 4000 personnes à l'époque et le concept s'est un peu endormi. Il a été repris en 2012 par deux étudiants en communication. La soirée a cette fois-ci déroulé au Grenier Saint-Jean en 2012 avec un début plus calme, hein, 400 participants. La dernière édition, c'était à Segré, elle a rassemblé 1200 personnes. On se rapproche progressivement de ce qui se passait il y a 10 ans. Pourquoi il y a eu une pause entre 2003 et 2012 ?
Eh bien, c'est assez dur à expliquer, mais moi, je ne pourrais pas vous dire exactement. Il y a eu une pause parce que c'était assez mouvementé avant. Et je pense qu'une pause était nécessaire pour faire mieux repartir l'événement sur de bonnes bases.
Bon, alors, la Catocalypse, c'est la 3e édition consécutive depuis 2012. Ça sera la 3e édition consécutive. On aimerait juste avoir la date.
Et ça, c'est encore un secret.
On aimerait juste avoir le mois.
Le mois, c'est assez facile. Presque tous les ans, c'est le même mois.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire à vous de deviner.
Ok, elle nous aide pas beaucoup. Bon, alors, je vais parler d'une autre soirée, c'est pas grave. Une soirée qu'on pourrait dire peut-être concurrente, c'est la Blue Moon qui est organisée par les EO. Vous la voyez, vous, comme une soirée concurrente ?
Étant bénévole à cette soirée la semaine dernière, c'est une soirée concurrente puisque cette année, ils se sont rapprochés de nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont fait un tremplin cette année aussi.
Au Shabada, en novembre.
Voilà. Donc, ils sont un peu partis sur le même principe que nous et... Avant, ils étaient plus vraiment électroniques et ils se sont rapprochés de notre style musical un peu. Donc oui, ils sont concurrents, mais après, il y a de l'écart entre les deux événements. On ne vise pas forcément les mêmes étudiants.
Alors ils ont effectivement fait un tremplin au Shabada. Vous le faites au Carré des Arts à Pelloy-les-Vignes. Pourquoi Pelloy-les-Vignes ?
Le Shabada, on n'était pas parti là-dessus parce que ce n'est pas une salle dont on a l'habitude. Avec nos étudiants à l'UCO, qui sont notre priorité, on est plus habitué à des salles peu connues. Où on se rend en navette, parce qu'on privilégie les navettes pour la sécurité des participants.
Alors justement, parlons de ce lien entre soirée étudiante, alcool peut-être, et prévention. La FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui est à Angers, et la FEDESA, à laquelle vous êtes rattachée, a mis en place depuis 2013 la charte soirée étudiante responsable, qui permet justement de prévenir les risques liés à l'alcool en milieu festif. Vous, quels outils, donc il y a les navettes, mais quels autres outils vous mettez en place, justement, en ce qui concerne la prévention des risques liés à l'alcool ?
Déjà, outre les navettes, on a aussi des places voitures, dont les conducteurs, on sait qui ils sont. Quand ils arrivent sur place, ils peuvent, sur la base du volontariat, nous donner leurs clés. Ensuite, quand ils viennent récupérer leurs clés, ils font un éthylotest. Si l'éthylotest est négatif, on leur redonne 2 euros sur les 12 euros qu'ils auront dépensés. Si l'éthylotest est positif, on ne peut malheureusement pas les empêcher de partir. Mais au moins, ils savent qu'ils sont trop alcoolisés pour conduire et la police est prévenue. Sur place, pour gérer les personnes trop alcoolisées, on a l'UMPS, l'unité mobile des premiers secours. Et on fait aussi tous les softs gratuitement.
Est-ce qu'on peut encore se procurer des places pour ce tremplin Catocalypse qui a lieu jeudi ?
Oui, c'est tous les midis à la Cato, aux rues Belle-Beille, aux rues Saint-Serge, jusqu'au jour J. Et ça se prolonge aussi dans l'après-midi pour la fête des UCO.
Avec quel tarif donc ?
Donc 12 euros pour les places navettes, pardon, et 10 euros pour les places passagers et conducteurs.
Alors la fée des Hucos, c'est pas que le tremplin Catocalypse, ni la Catocalypse. Vous reviendrez nous causer de la Catocalypse, puisque ce soir on n'y arrive pas à avoir des infos. D'autres dates à annoncer, d'autres événements en parallèle?
Ben déjà demain, on va commencer le don du sang, qui se déroule toute la journée dans le hall Bazin. Ensuite, comme événement, on aura aussi le CID Action, c'est bien cela. Les dates, je ne les ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. On va avoir la Catocalypse et une soirée passe-partielle qui va arriver. Ainsi que des petits événements comme des propositions pour aller au cinéma, au théâtre, culturel, tout ça.
Tout est sur la page Facebook Fédé Uco.
C'est ça.
Merci beaucoup, Chloé Ballet, d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et puis donc, à jeudi. Et puis, en amont de la Catocalypse.
Au mois inconnu.
Au mois de... On verra. Merci beaucoup d'avoir été dans le sous-marin.
Esprit sensible, grand guignol acide, first class à grand coup de schlasse dans l'intestin. Diablotin en meute sort quand le corps sonne. Cursus décorché, les cœurs craignent. Donc feignent, le doute règne. Ainsi les corps saignent, s'étalent et puis s'éteignent. On matérialise nos rêves, 200 balles dans tes semelles. Pour une dizaine de semaines, dans un espace formel. Relent de formol, quelle que soit la formule. À tous les coins de ruelle, la loi du plus fort tue. Entre idéal de fortune et réalité malsaine. Identité perdue et paralysie abstraite. Équilibriste en fait, prophète sous cirage. Pris au piège du ciment, son silence et ses mirages. Poursuivant les sillons, au son des sirènes. Ainsi écarté du rivage, j'érute les clivages. La condition de l'esthète, la culture de l'échec. Un putain de casse-tête pour des putains de baskets. Équilibriste en fait, prophète sous cirage. Pris au piège du ciment, son silence et ses mirages. La condition de l'esthète, la culture de l'échec. Un putain de casse-tête pour des putains de baskets. Équilibriste en fait, prophète sous cirage pris au piège. Règne sans partage, loup parqué sans pactage. Renier, je compte faire tâche, braillé sans cactage. Étalage des tas d'amusants, des mots comme autant d'armes. Ectoplasme affranchi, libre et sans étendard. Voûte stellaire, ma seule toiture quand le doute s'élève. Y'a plus de piture mais des rêves et quelques ratures. Sur le statut de racure en quête d'une carrière quelconque. Insulté chaque seconde, assiste à la chute de soi-disant valeur féconde au profit de matière fécale. Livré à coups de faconde, à coups de canon sous couvert d'issue fiscale. Les fistos tirent les ficelles donc fiscale. Efface-toi c'est vital, canis, lupus, graille. Ceux qui sortent du lot, sans délai sordide. Surtout s'il en sort du lait, à l'assimilation servile. J'suis hostile, une ortie dans le slip. Rien n'est dû, rien n'est acquis. La condition de l'esthète, la culture de l'échec. Un putain de casse-tête pour des putains de baskets. Équilibriste en fait, prophète sous cirage. Pris au piège du ciment, son silence et ses mirages. La condition de l'esthète, la culture de l'échec. Un putain de casse-tête pour des putains de baskets. Équilibriste en fait, prophète sous cirage. Pris au piège.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Vous écoutiez Bentham avec 600$ chaussures. Et le lundi, en fin d'émission, c'est l'heure de la chronique sportive. Ce soir, c'est Julien qui s'y colle. Salut Julien.
Salut Tiphaine.
À toi.
Bon, je me demande ce que ça fait de passer à côté de 1,5 million de dollars pour seulement 3 buts. Ouais, je sais, cette somme est hallucinante, mais c'était le butin qui était promis aux joueurs du Qatar en cas de victoire. Je dis bien aux joueurs du Qatar et non pas aux Qataris. J'ai trop de respect et d'amour pour le sport pour croire en cette grosse blague qu'est cette formation. Sur les 16 joueurs, on compte seulement 5 Qataris. C'est la preuve qu'avec les sous, on peut tout s'offrir. Enfin, presque tout, puisque en l'occurrence, l'étoile sur le maillot, c'est nous qui l'avons. Voyons, un peu de morale quand même. L'objectif des dirigeants qataris, qui organisaient le mondial chez eux, était d'y faire bonne figure. Force est de constater qu'avec une fédération qui compte 600 licenciés, soit presque autant de bénévoles que Radio Campus, parvenir à être la première équipe non européenne en finale du championnat du monde, c'est quand même un exploit. Avant leur finale d'hier, le meilleur résultat des Qataris était une modeste 16e place. Vous pensez bien que l'émir Al-Thani ne pouvait pas se permettre de voir son équipe finir si bas dans le classement. Il a alors sorti le bon vieux carnet tchèque pour débusquer le coach espagnol Valero Rivera, tout juste champion du monde avec l'Espagne en 2013, en lui donnant le défi de construire une équipe compétitive en 2 ans. Le résultat d'hier doit amener les instances internationales du hand à se poser des questions. Comment on peut laisser une nation évoluer avec 80% d'étrangers? De naturaliser, pardon, c'est vrai que c'est plus correct. Vous pouvez me dire ce qu'ils connaissent du Qatar, les Égyptiens, Tunisiens ou Espagnols qui ont défendu les couleurs du royaume du pétrole. D'ailleurs, on comptait un petit Français dans les rangs, Bertrand Rouanet, qui a débuté sa carrière à Angers. Bon, ok Bertrand, je veux bien te croire, Doha, ça bouge peut-être plus qu'Angers. Mais honnêtement, t'as quand même dû te sentir con quand t'as entendu la Marseillaise résonner et que t'étais du mauvais côté du terrain. Bon, ok Bertrand, en interview, tu répètes à tes détracteurs que vous n'êtes pas des mercenaires. Mais on lit dans la presse que toi et tes potes, vous aviez une prime de 100 000 euros par victoire. Puis il y a des petits avantages en nature, comme on dit. Ça doit changer les fins de mois de ne pas payer d'eau ni d'électricité et de se voir offrir une maison et une voiture, non ? Non ? Bon, tu m'excuseras, mon petit Bertrand, mais je doute un peu de tes belles paroles. Dans cette équipe, on retrouve des stars qui ne jouent plus depuis au moins 3 ans pour leur nation et qui se voient offrir la chance de disputer une ultime compétition internationale. Fini l'éducation, la formation des sportifs, enfin tout ce qui prend du temps quoi. Imaginez plutôt un supermarché dans lequel le coach a carte blanche pour constituer son équipe. On se demande où est la place du sport dans tout ça. Parce que moi, un peu naïvement, je crois encore à des belles choses comme l'éthique, l'équité, qui sont aujourd'hui bafouées par l'argent. On a d'ailleurs beaucoup parlé de l'extra-sportif durant ce championnat du monde. Je vous fais un petit top 3 des plus belles polémiques de la compétition.
Number 1.
60 fans espagnols payés pour supporter le Qatar. Elle est pas mal celle-ci quand même. Des Espagnols, qui est la nationalité du coach qatari, je vous le rappelle, se sont vus offrir l'ensemble de leurs frais de voyage, d'accès au match et d'hébergement, avec en retour l'obligation de porter les couleurs du Qatar dans les tribunes et bien évidemment de chanter à la gloire du petit émirat.
Number 2.
Un match d'ouverture contre le Brésil dans une salle presque vide. Les Qataris ont assisté à la cérémonie d'ouverture, puis certains sont partis au début du match, d'autres ont quand même eu la correction d'attendre la mi-temps, mais avouez, ça fait moyen en termes d'image. On nous vend une nation qui aime le handball, mais elle quitte la salle en plein match. Ça fait désordre, monsieur l'émir.
Number 3.
Un bordel incroyable dans la gestion de la billetterie. Des fans allemands et danois qui avaient des tickets pour les matchs du dernier carré ont vu leur place retirée après l'élimination de leur équipe, pour qu'un maximum de Qataris puissent envahir les tribunes et supporter leurs joueurs toujours en course. Dans le même genre, on a aussi la blague des locaux qui rentrent gratuitement quand des places sont libres au début du match. À tel point que pour la rencontre Qatar-Allemagne, il y avait 16 000 personnes pour 15 000 places disponibles dans l'aréna de Lusail. Bon, on en rigole, ce n'est que du sport, mais il faut avouer que ce championnat ne rentrera pas dans l'histoire. Le plus important, c'est que quoi qu'il se passe au handball, à la fin, c'est la France qui gagne. Et je termine en ajoutant qu'on n'a pas fini de rire, puisque je vous rappelle que la Coupe du Monde de football 2022 a lieu chez nos amis Qataris.
Vivement alors, c'est quoi, dans 7 ans ?
C'est ça, on va bien se marrer, je pense.
Merci Julien.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, ça se passe au quai à 20h30 avec le début de la semaine spéciale solo organisée par le Centre National de Danse Contemporaine. Ouverture des hostilités avec une chorégraphie signée Maggie Marin, interprétée par David Mambouche. Toute la programmation de cette semaine est à retrouver sur le www.cndc.fr. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Extrait de l'artichaut de vendredi dernier, Germain Kpakou évoque les origines du 9 rue Claveau.
Le 9 rue Claveau, c'est une adresse, donc c'est un peu bizarre pour être comme nom de regroupement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a de ça maintenant, on était en 2012, donc il y a de ça 3 ans, on s'est retrouvé avec Vivien Guéry et Clarisse Arnoux, qui sont les deux porteurs du label Yotanka. On s'est retrouvé à Angers à la fin de chacun un parcours professionnel particulier et on avait le même besoin, c'est-à-dire des bureaux, qu'on a trouvé en fait au troisième étage du 9 rue Claveau.
Juste au-dessus de premier plan.
Juste au-dessus de premier plan.
Et en face des 400 coups, voilà, pour s'y situer.
C'était en plein centre, donc ça nous intéressait. La première raison pour laquelle on a pris ça, c'est parce que ça coûte toujours moins cher d'être ensemble, voilà. Donc on avait appelé ça à l'époque, on rigolait en disant que c'était la stratégie des poussins. Plus on est serré, plus on est chaud.
Et c'est joli ça.
Ouais. Mais c'était juste ça en fait. Et donc on a partagé effectivement des bureaux, on a partagé Internet, on a partagé le chauffage, on a partagé l'eau, on a partagé les trucs basiques quoi. Et on en est venu à On s'est rendu compte que ça avait un impact positif sur nos activités, dans le sens où on était plus visible quand les uns faisaient venir quelqu'un, on voyait tout le monde en même temps, et donc on a essayé d'aller un peu plus loin que juste partager de l'électricité ensemble, on a essayé de partager des projets.
Vous pouvez réécouter la totalité de l'émission où il est question de 2020 Angers Musique, de Daria, de Rap Texan et de l'agence Cielo sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Otros Mundos, un petit voyage autour du monde orchestré par Michel. Nous, on se retrouve demain à 19h. Nous parlerons économie sociale et solidaire. Merci à Yann et à Julien. Merci à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.